Aye.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant, en des structures.
Oui, et Jean-Louis Rousseau.
Et Tom Fracasse.
ça le fait rire, voilà. À chaque fois, ça le fait rire. Il est mort de rire, là. Je vais vous interdire de certaines substances.
Mais oui, mais c'est pas de ma faute. D'abord, les substances, faut voir où est-ce qu'on les trouve, déjà, et d'une. Et d'autre part, comment je trouve qu'elle mousse un peu. Alors, elle est pas chère, cette bière. Elle est pas chère, vous parlez, mais elle mousse.
Voilà. Donc, allez-y, puisque vous voulez lancer l'émission.
Eh bien, on va pas commencer par une émission bourrée, une émission pour dire que nous n'avons toujours pas retrouvé trace de notre ami Grovitch. C'est dommage, parce que j'ai perdu mon petit en cours de route.
Oui.
Alors, il paraît qu'il s'est multiplié. Est-ce à dire que, du coup, il serait coincé entre les langes et le nourrissage de la petite, qu'on espère, en tout cas, que tout va bien. Et on commence donc cette émission, mon bon Jean-Loup, avec l'index de la programmation acquis. Parce qu'il y a eu pas mal, un petit peu, de chahut.
La semaine dernière, c'était un peu le chantier. On avait perdu les invités, je sais pas si vous vous souvenez.
Vous avez tort, une fois de plus.
Oui, par contre.
Comme d'habitude, mais il admet jamais. Il admet jamais sa tortitude.
Ici, il a admis, là. Ça a été dur, mais il a admis.
Ah bah oui, c'est normal.
Oui, donc,
c'est Jean-Loup le premier.
Voilà, et hop, c'est parti, qu'on y aille.
Moi, je suis deuxième, au moins.
Ah, mais on va voir.
C'est toi qui fais des conneries.
En antenne, on va voir.
Votre tour viendra quand il fera passer devant le jugement de Dieu. Là, vous allez demander d'être troisième et pas le premier. Là.
Read between the lines. I just gotta make you.
bien voilà, et bien voilà, après comment, ce morceau qui démarre super bien, c'est votre programmation, Jean-Loup. Bien, Royal République. Bien.
Allez-y, je m'excuserai une prochaine fois. Oh, je suis content que vous me fassiez un compliment, là.
Non, mais c'est vrai, donc c'est bien. Alors, voilà. Si on lui fait pas de compliment, il gueule. Moi, je dis, on va devoir le faire piquer. Il est devenu mauvais. Il est devenu mauvais comme un vieux chien. C'est fichu. Tout ça parce qu'encore une fois, c'est une émission.
Là,
ça me rassure.
Ça y est, on retrouve. Ça va mieux là. Ça
nous
va mieux.
Recevons ce soir Nini, qu'à la voix, en tout cas, nombre d'auditeurs de Canal B reconnaîtront sans doute et vraisemblablement, qui nous revient tout droit d'Iran. Impeccable, vous êtes revenu en pleine forme. Alors on aurait pu vous imaginer marié de force ou radicalisé. Eh bien non, toujours pareil, toujours la Nini qu'on connaissait avant. Tout ça pour parler d'un pays où c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup, où j'aimerais bien aller quant à moi. Mais bon, si c'est pour déguiser ma chérie en chauve-souris, j'ai un petit blocage. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Merci d'être venue en tout cas, mademoiselle.
Mais.
Voilà.
Attendez, on dit plus mademoiselle, c'est interdit. On dit madame, quoi qu'il arrive.
Vous préférez mademoiselle ou madame?
C'est comme vous voulez, messieurs.
Bonjour, madame.
Madame.
Voilà, ça vaut mieux.
Madame Nini, moi, je trouve que c'est un petit peu.
Ça fait un petit peu voyante.
Madame Nini, bon, on va vous appeler madame Nini, apparemment, ça fait plaisir à Jean-Loup.
C'est la loi, c'est tout,
Madame Nini, qui ne connaît pas non plus les fondamentaux de la radio comme votre petit, à savoir, je ne mâche pas devant un micro.
Voilà.
Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Que je ne parlais pas, je mangeais sans parler. Là, vous m'obligez à parler.
On ne sait jamais quand est-ce qu'on va parler. Il faut être toujours vif, à l'affût. Je sais pas moi, un espèce de condor, un espèce de bestiole vive. Si vous êtes là en train de vous goinfrer, déjà on avait réussi à l'interdire à Tom, et là vous allez le rendre dingue parce que lui il a rien bouffé et on lui a.
En fait, on peut pas parler. On est invité, mais on peut jamais parler.
Vous avez tout compris.
Attends, votre introduction, mon cher Jean-Loup. Roger, me fait dire qu'effectivement il y a quand même quelques préjugés sur l'Iran à lever. Voilà, donc ça pourrait être intéressant que les gens ne s'arrêtent pas à l'image d'un pays où les femmes sont voilées de pit en cap. Ça serait un petit peu dommage parce que c'est un pays autrement plus passionnant que ça.
Et si quelqu'un a des préjugés sur l'Iran, c'est bien moi.
Eh ben voilà. Après, comme vous êtes assez indécrottable, je suis pas sûre de pouvoir vous faire bouger, mais.
Il demande qu'à s'ouvrir.
Non, mais si j'ai des préjugés, je suis pas seul. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui en ont aussi.
On va voir de quel préjugé il s'agit.
Mais avant tout ça, il y aura quand même la semaine des Grignoux, comme d'hab. Et un petit exemple programmation à Roger, on a dit du morceau court. Ouais. Allez, punk 77.
Ultra court.
Punk 77, vous allez être contents.
1,54.
C'est bon, ça devrait suffire. Pack, pack, sit on deck, see a daddy underclass.
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler, mais tu me laisses parler.
Il est en train de me virer par la violence, oh, et ça me coupe.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Rubrique à Mr. Pepper. Les Roger Peppers.
Mr. Pepper. Il nous appelle n'importe comment. Allez, eh ben, alors, voyez, je vais donner la main.
C'est,
j'ai envie de
si
donner la
moi
main.
Qui commençait là.
Ah bah on peut faire ça, tiens. Ouais, allez Jean-Loup, c'est à Jean-Loup.
Ouais, c'est là, moi qui, là, qui c'est moi qui donne la main à Jean-Loup, putain, fallait connaître.
J'ai une grosse enveloppe que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres ce matin, je suppose, que j'ai découvert cet après-midi et qui parle d'élections législatives. Et c'est un peu comme une pochette surprise quelque part. Alors, j'ai ouvert et je comprends pas tout, parce qu'il y a du monde quand même là-dedans. Je sais pas dans quelle circonscription vous êtes Roger, mais moi il y a 13-14 candidats.
J'ai du mal avec ma chérie, on n'arrête pas de nous présenter des cartes, etc. Il y a tellement de candidats et des gens qui viennent parfois de très loin qu'avec ma chérie on se demande si effectivement on est dans la bonne circonscription. Quoi qu'il en soit, chez nous on en a 18 et vous en avez combien?
13 ou 14, ouais, on est plus pauvres à Zup Sud, donc on a moins de candidats. Là,
il y a moins de candidats,
c'est plus ramassé. Mais par contre, j'ai bien compris, il y a une sombre histoire de pognon derrière. Pourquoi autant de candidatures? Et je crois que pour chaque bulletin glissé dans l'urne, le parti touche 1,42€.
Ouais, alors 1,42€, mais je crois qu'il faut atteindre, pour que l'État paye ça, il faut atteindre au moins un certain pourcentage. En deçà de ce pourcentage, l'État ne paye rien du tout.
Est-ce que, à vérifier, Tom, il va regarder ça tout de suite, à vérifier, parce que du coup, un petit parti à la con qui va avoir 100 000 voix, c'est minable au niveau national, ça veut lui faire quand même 150 000€.
Est-ce que vu d'un côté plus démocratique, est-ce que c'est pas justement le fait que les élections législatives soient devenues la possibilité de la vitrine de certains mouvements? J'en veux pour preuve le côté un peu éclectique des listes, puisque ça va de la défense des petits chats avec montrer à notre invité, je suis sûr qu'elle va
mais
craquer.
Mais non, je l'ai pas, moi, le
vous
parti
l'avez
animaliste.
Pas, moi, putain, je l'ai chez moi, le parti de défense des petits chats.
Je voulais voter petit chat parce qu'il est mignon, quand même.
Il y a un chat, qui vous regarde et qui fait, tu vas voter? Petit chat. Il y a un autre parti également qui dit.
Ah, que je sens que Dan Lilly est en train de s'énerver.
Non, pas du tout. Je me faisais la remarque qu'effectivement, il n'y avait plus forcément besoin de programme et qu'il suffisait de mettre un chaton ou une bite sur un.
Alors, non,
sur une affiche. Oh, mais moi, je suis persuadée que ça permettrait de ramener de l'électorat, puisqu'on a bien mis un petit Mickey en costardé, avec la chevelure bien propre et que ça, il a été élu sans programme, sans prestige. Sans rien.
Vous voulez parler de monsieur Macron? Comment qu'elle l'appelle? Purée, un Mickey.
Je crois, on l'aime ou on le déteste.
Voilà,
il y a
c'est
rien
ça.
Entre les deux, quoi, là.
Ouais.
Alors, et il risque de pas y avoir grand chose entre les deux, parce que d'après les sondages, il aurait déjà la majorité absolue. Ils en auraient presque même peur, parce qu'ils disent, oula, ouais, attendez.
C'est trop, ouais.
Et dans le Canard enchaîné de cette semaine, il y a des articles où ils disent, bah, écoutez, ils commencent un peu à flipper, parce que, du coup, eh ben, le problème, c'est qu'il va falloir contrôler des tas de députés totalement inexpérimentés. Qui peuvent aussi avoir des tas de casseroles bling-bling qu'on n'a pas eu le temps de surveiller. Bref, ça va être un gros bordel.
Mais ce qui est insupportable, c'est ce principe d'auto-prédiction prédessine déjà les résultats. Et les médias sont fortement responsables de ça. C'est-à-dire que par ce principe d'auto-prédiction, En Marche va remporter tous les suffrages aux législatives. Il y a une majorité de gens qui vont aller voter pour En Marche en se disant, voilà.
Alors, je lève la main pour reprendre la main dans ce débat, mais je nuance parce qu'il y a déjà eu des élections avec des résultats. Alors, des résultats un peu surprenants, puisque des élections qui ont été marquées avant toute chose par 80% d'abstention, c'est une paille.
Oui, enfin
un peu
bon,
de boulot. Ça concerne pas que nos possessions d'outre-mer, en Polynésie française, ça concerne aussi les Français de l'étranger, et dans toutes les circonscriptions des Français de l'étranger, le taux d'abstention est phénoménal, à tel point que dans bien des des circonscriptions, eh bien Macron, le candidat macroniste l'emporte dès le premier tour avec parfois 52%, et qui mais ne peut pas être élu parce que il n'y a pas le quorum nécessaire, alors de 20% de suffrage exprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, quid de cette élection au deuxième tour si de nouveau, bien qu'il y aura plus que deux candidats à chaque fois, donc du coup ils ont éliminé quand même, ils en ont profité pour éliminer les.
De toute façon, c'est choix entre la droite ou la droite, hein, pour les gens qui.
Non, non, mais sans parler de ça, on peut y revenir, mais en attendant, je crois que le phénomène le plus choquant, c'est quand même 80% d'abstention.
Ce qui est assez déprimant, c'est qu'on a le sentiment que les citoyens font de la politique tous les 5 ans et uniquement pour les présidentielles. Ouais. Alors que les législatives, c'est un moment législatif hyper important, le plus essentiel, puisque ce sont des députés qui voteront les lois, qui les revoteront, qui les corrigeront, qui les débattront, et c'est quand même c'est quand même au niveau de l'Assemblée nationale que se porte le cœur de la politique. Et c'est vrai que c'est assez déprimant. C'est-à-dire qu'il y a eu un taux d'abstention qui était relativement faible aux dernières présidentielles. Qu'il y a eu une participation très honorable.
On va
le formuler de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est dommage que les gens. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est un manque de.
Bon, je pense que c'est dû à l'erreur des socialistes sous Jospin d'avoir demandé, vous savez, la confusion. La confusion des législatives.
La conjonction.
D'accord. Du coup, c'est une connerie parce que.
Le mec, il est pépère pendant 5 ans.
Voilà,
ou pas.
Et on en prend pour 5 ans. On risque d'en prendre pour 5 ans avec une majorité. Alors attendez, il prévoit, selon cette espèce de sondage à la con, près de 400 députés pour Macron, une cinquantaine pour notre ami Bayrou. Donc ça ferait près de 450 sur 577, à tel point que c'est un des articles que j'avais découpé qui m'a fait rire, que j'ai piqué sur Internet, où c'est Barouin, vous savez, c'est le représentant des Républicains pour les élections législatives, qui a dit « on est maudits jusqu'à la 13e génération ». Parce qu'effectivement, sans les conneries à Fillon, c'était bon, ils auraient voté Juppé, par exemple. Là, c'est à la primaire de la droite, les gens de droite avaient voté Juppé, on avait Juppé, tranquille. Et
ça aurait été tellement mieux.
Je dis pas que ça aurait été mieux, mais je dis en tout cas que c'était couru, quoi.
Je suis pas sûr que ça aurait été mieux, Juppé ou Fillon.
Peut-être l'air un peu austère comme ça.
Alors justement, on parlait de Macron, le cow-boy, tiens, et on parlait de pas mal de choses tout à l'heure. Par rapport à des projets de loi de Macron, j'en ai trouvé un qui va vous plaire, mon bon vieux Jean-Loup. C'est l'amende plutôt que le tribunal. Il semblerait que à propos de la détention de cannabis, actuellement, l'usage de drogue et notamment de cannabis est passible d'une amende de 3 750 € d'amende et d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. C'est dur à dire, contraventionnalisation, l'usage de stupéfiants ne serait plus passible du tribunal correctionnel, mais une juridiction de proximité. Il reste donc quand même une infraction pénale. Ouais. Et du coup, vous auriez une tôle.
C'est pas nouveau, c'est Sarko, je crois, qu'il avait proposé justement de donner une amende. Et quand on entend les juges dans les tribunaux, il dit, mais c'est des conneries, j'ai jamais vu un mec devant mon tribunal pour un gramme de cannabis.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une avancée pour les consommateurs du cannabis, hein. Avant tout, une façon de désengorger les tribunaux, d'accessoirement désengorger les prisons. Après, je sais pas jusqu'à combien de grammes.
Je crois que c'est
uniquement celui qui est pris avec quelque chose qui pourrait correspondre à de la consommation. Mais à partir du moment où il y a vente, ou possiblement vente, en tout cas, qu'il y ait une quantité suffisante, où on passe au trafic, là, ça reste pénalement...
Et c'est ce que rappelle cet article en disant qu'on est encore loin de la légalisation et que du coup, contrairement à celle que défendait Benoît Hamon, d'ailleurs, il faut signaler, et du coup, en France, le débat politique reste encore bloqué depuis cette fameuse loi de 70, et on rappelle quand même qu'en 2014, 17 millions de personnes disaient avoir déjà pris du cannabis dans leur vie, et 700 000 on consommerait quotidiennement. Ça veut quand même dire 700 000, on peut arrondir à 1 million, parce que ça c'est le
ce qui, ouais, l'annonce,
ouais, ça c'est les chiffres de l'Office français du comment des comment alors, de la du toxicomanie. Coup, mais du coup, il y a quand même un véritable problème et de pénal, parce que ça encombre les prisons aussi, parce que 50% de la population carcérale l'est pour fait de drogue quand même, faut le savoir.
Donc ça veut dire que dans votre enveloppe, mon cher Jean-Louis, est-ce que vous avez un tract avec une feuille de cannabis, parce que un chaton, pourquoi pas un tract
c'est
avec
mignon, un chaton. Alors, un chaton avec une feuille de cannabis derrière, alors là je vote.
Moi je l'ai. Alors dans la famille élection législative, moi j'ai le parti pirate.
Je l'ai pas, moi. Je suis tombé pirate en plus. À l'Union Pubère, c'est vrai qu'il y a des noms assez. Il y a l'homme, l'animal, la planète. Et c'est pas le petit chat. C'est pas le même parti.
Alors, ce qui est assez, comment dirais-je, impressionnant, c'est que d'habitude la gauche avait quand même une propension à se diviser, mais la droite fait pas mal, parce que ça compte pas loin de trois partis de droite.
Allez, on va s'écouter un petit disque, autant je tiens un petit bulletin. Ah, pour voter, c'est peut-être la solution. Je mets ça dans mon enveloppe, je secoue et je tire un bulletin.
Ça peut être une façon, mais après, c'est quand même assez risqué, hein.
Bon. Hein? Le petit chat, il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon.
Et il y a le parti du miroir aussi.
Allez, un petit disque et on prend notre discussion. C'est parti.
Revolution. Alors que Jean-Loup continue à jouer avec ses bulletins, on dirait un gosse. Tombé, là, il vient de découvrir que le logo de
Mélenchon vu sur un certain angle un peu bizarre, on va dire.
Ça fait un 6, ou ça fait la queue du diable s'entremêle.
Vous êtes pas loin.
Oui, vous voulez parler de...
un petit peu mollassonne.
Voilà.
Qui demande justement à remonter.
Effectivement. Bon.
Bon, bah, j'ai rien dit.
Voilà qui est très sérieux. Alors moi, j'avais quand même des choses plus sérieuses, de la réactivité. Il s'est tenu quand même un salon du tatouage à Rennes ce week-end.
Le week-end dernier, ouais.
Et il se trouve que j'ai trouvé un article intéressant à propos d'une machine à tatouer, c'est-à-dire l'équivalent d'une imprimante laser, vous voyez, mais sur la peau pour pouvoir vous tatouer.
C'est-à-dire un truc automatique, hop, vous mettez votre bras, par exemple, vous donnez une pièce ou deux, vous choisissez le motif.
Avec un programme.
Il y a ça dans un film de Paul Verhoeven, justement, où des espèces de soldats vont se faire tatouer. Ils font les cons dans une machine à tatouage. Eh ben, c'est pareil. Vous là, et l'article commence avec une nana qui se fait tatouer une chanson des Ramones, et la machine, comment imprime au rythme de la musique des Ramones et tatoue la partition. Ouais.
Alors moi je pense qu'on devrait aussi inventer ça pour les coiffeurs, parce que ça nous éviterait de subir les conversations.
Quoi, des coiffeurs ou... en tant que coiffeur.
Alors de tatoueur aussi, les conversations de tatoueur peuvent m'emmerder aussi, mais c'est peut-être mon côté ours des fois, devoir rester comme ça.
Moi j'adore les conversations de coiffeur et de coiffeuse.
Et de barbier, là.
Ouais, de barbier.
Mais pas trop apparemment à la barbe, hein. Vous devriez discuter plus souvent, là.
La machine s'appelle Tatoué, et c'est des Français qui l'ont mis au point. Du coup, alors on appelle ça une imprimante 3D, c'est pas vraiment 3D, parce qu'en fin de compte, le seul côté 3D, c'est votre peau, c'est votre corps.
C'est à l'intérieur, en fait.
D'accord.
Mais la machine, elle, par contre, pose quand même un sérieux problème de concurrence avec... alors, vous imaginez bien que dans le milieu, ça a réagi, parce qu'il se promène un peu partout dans les salons du tatouage avec sa machine, et ça réagit. Alors, Tintin, le célèbre, comment dirais-je, tatoueur, a gueulé en disant
c'est pas
que c'était...
Le, c'est pas le, celui qui fait la BD, là, le, c'est
non,
pas même
ça n'a rien
non,
à
c'est
voir
pas le Tintin de Tintin Émile, ou c'est le Tintin, là, c'est un gros tout tatoué.
Et il dit, Tintin dit, chez nous, la peau, c'est comme une toile pour un peintre. C'est le support de l'artiste. Vous imaginez un Van Gogh laisser la robotique travailler sur la toile à sa place. Cette machine n'a aucun avenir. Bah, pas si sûr.
Alors moi, je serais assez d'accord avec lui. Il y a des technologies qui se plantent. Hein.
Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que si vous souhaitez la patte de quelqu'un, vous voudriez que ce soit effectivement la patte de quelqu'un. Mais si on est capable de mettre des machines au point qui permettent, allez tiens, tu veux n'importe quoi, la machine peut te tatouer n'importe quoi, je pense que certains, tous les tatoueurs ne sont pas forcément égaux en termes de talent, etc. Et certains tatoueurs à la petite main pourraient être tentés d'acheter ce genre de bécane.
Ouais. Je vais bloquer, allez-y.
Mais je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir des clients pour ce type de tatouage. Après, la machine, est-ce qu'elle pourra penser le tatouage dans l'harmonie du corps
avec des capteurs, j'imagine qu'ils ont quand même bossé sur l'affaire.
Je pense que ça peut peut-être fonctionner sur du petit tatouage.
Ouais, là, je vais vous rejoindre, c'est pour le papillon standard, standard. Ouais.
Plutôt l'idée
que certains se font, et c'est pareil. Qu'est-ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais tatoueur? C'est pas la qualité de son tatouage, bien sûr, mais de son dessin. C'est celui qui a l'œil. Si je mets
et
là,
et qui l'harmonise avec le corps, chacun ayant un corps très différent, qui l'adapte en fonction des zones, qui trouve le meilleur endroit où le faire. C'est ce regard-là. Je suis pas persuadée qu'une machine puisse le remplacer.
En fait, et on peut être un très bon dessinateur et un très mauvais tatoueur.
Ouais, tout à fait.
Voilà, on va faire front.
Mais oui.
Je vous ai laissé bavocher et j'ai repris mon souffle pour une nouvelle amusante. Vous connaissez sans doute ce qu'est qu'un fake news.
Yes.
Un fake news. Fake news, c'est un fake news, c'est une fausse nouvelle. Et c'est assez marrant parce que alors il y a Florian Philippot a publié une fake news selon lequel c'était pendant la campagne électorale, vous savez, et Marine Le Pen devait se rendre dans une église et il aurait intercepté un mail de la bande à Macron avertissant on va dire l'agitateur macroniste local avertissant tous ses amis en disant la Marine va dans l'église, il faut qu'on aille la crever, etc. Et puis il y en a un qui dit la crever, non mais on va la pourrir son plan, etc. Bon bref, sauf que Naturellement, ce mail a été complètement bidon. Et Philippot, pour sa défense, a dit oui, mais dans l'état dans lequel on était à l'époque, c'était possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en disant que ce fake news était possible, eh ben, il réécrit une vérité totalement, complètement bidon. Et c'est marrant parce que Hollande avait fait les frais de ce plan fake news. C'est-à-dire que c'est un argument que Samuel Laurent, journaliste au Décodeur du Monde, avait montré comment une fausse citation de Hollande, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye, avait beau être 1000 fois démentie, elle n'en restait pas moins vraie pour de nombreux militants, non pas parce qu'elle était vraie, mais elle aurait pu être vraie. C'est-à-dire que comme on aurait pu dire ça, bah finalement, bah oui, de toute façon...
Ça me rappelle les soi-disant hommes qui ont été sur la Lune, des conneries, tout ça là.
En tout cas, c'est assez terrifiant.
Bah là, c'est terrifiant parce que ça veut dire qu'effectivement.
C'est le principe de la rumeur en fait. Ouais, ouais. Mais là,
fake news, c'est mieux là, c'est plus sérieux. Ouais.
Non, mais ce qui est terrible dans l'exemple de Hollande qui n'a pas dit, mais il aurait pu le dire. Donc
parce
du coup, ça le poursuit à vitam aeternam.
Voilà, on imagine bien qu'il aurait pu le dire, donc c'est possible. Donc c'est vrai.
Ouais.
C'est incroyable.
Et comme il n'y a pas de fumée sans feu.
Voilà. Et on se rapproche de 1984. Mais Jean-Loup a envie d'écouter un petit Dix parce qu'il faut qu'il aille.
Non.
Non. Non, il va pas aller.
Il va pas aller, non.
Non, c'est sûr.
Ah oui, je vous assure. Et le petit chat, il me plaît bien. Plus je le vois.
Non, mais il a une chaise à trous, là, ça va, hein.
Tourne mon bon Jean-Loup et le vent tourne aussi et ça se réchauffe. Contrairement à ce que pense Trump, ça se réchauffe quand même pas mal. Est-ce que quelqu'un a entendu parler en Norvège d'un centre pas très secret hein, parce qu'il y a des pas mal de gens.
Déjà vous êtes
visiter,
au courant.
Et je l'ai même vu à la télé d'un centre dans lequel on stocke des millions de graines
au cas où
comment dirais-je, il y aurait des
des soucis.
Ouais, et... ça a une dizaine d'années, cette histoire.
Ah oui, bien sûr. Ouais, alors, comment dirais-je, est-ce que vous savez pourquoi il est en Norvège?
Bah, parce qu'il fait froid, que ça se conserve plus facilement.
Eh ben, c'est fini. En
fait, on l'avait fait. Il fait plus assez froid.
Allez, attendez, on avait fait un putain de tunnel.
Ah ouais.
Et le tunnel, si vous voulez, il était, comment creusé dans le permafrost. C'est-à-dire.
Et donc là, les graines germent, là?
Non, c'est, comment, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça.
Mais laissez-le finir.
Non, mais si je peux, si je peux causer, tout le monde, ils sont là, ils mangent des cahuètes, c'est un peu le bordel. Donc, ils ont creusé un putain de tunnel dans le permafrost. Après, ils ont mis des congélos, mais comme ils étaient déjà dans le permafrost, vous imaginez bien, tout ça,
c'était permafrost, c'est comme un périnée, un truc comme ça?
Non, permafrost, ça n'a rien à voir ça, vous allez me faire vomir.
C'est une terre qui ne dégèle jamais.
Une terre qui ne dégèle
Merci
jamais.
Merci, pour
oui, moi, je sais ça, parce que je
et là, et contrairement à ce que pense Trump, elle dégèle. Et du coup, eh bien, le tunnel à graines s'est retrouvé inondé.
La vache.
Ça fait un peu drôle, sachant quand même, et heureusement, selon le communiqué de ce truc-là, l'agence de presse Reuters a déclaré qu'il n'y a pas de souci, c'était vraiment dans le couloir, on a passé la serpillière. Il n'empêche que, quand même, si c'est pas la fin du monde, ça y ressemble quand même drôlement.
Mais pourquoi ils ont pas mis ça dans les congélateurs géants? Ça a été beaucoup plus simple,
vous
en fait.
Vous savez quoi, ils auraient dû les mettre à côté de Google ou de
oui,
machin.
Ils récupéraient l'énergie.
Non, mais si c'est en prévision d'une apocalypse, effectivement, quand il y a de l'apocalypse, il y a des risques de coupure de courant. Donc, les congélateurs, c'était peut-être pas la bonne idée. Donc, ils sont allés sur quelque chose de frais, naturellement.
Ils ont réfléchi, là.
Voilà.
Oui, enfin, ils ont dû remonter un peu plus au nord ou aller au pôle sud.
Ouais, là, mais même le nord, il va fondre complètement et tout va se retrouver sous l'eau. Allez, une dernière bonne nouvelle. Si, là, par contre, ça m'a fait penser, c'est un fait divers très glauque d'habitude, c'est pas ma tasse de thé, mais ça m'a fait penser à une histoire qui s'était passée au large de chez vous, mon bon Jaloux. Vous rappelez quand il y a eu ces pauvres scouts là qui ont été noyés de
oui,
fort?
Avec c'est-il, l'abbé Cotard.
L'abbé Cotard.
Ouais.
Et que pas une famille a porté plainte, il y a eu 6 ou 7 gamins qui se sont noyés.
Enfin,
Eh ben, rebelote mes plottes, puisque ce samedi 3 juin, c'était jour de déménagement à l'institution Angélus, la bien nommée, on vous sonne les cloches. Après la perquisition effectuée vendredi soir, le procureur de la République a décidé de fermer l'établissement. Il accueille une centaine d'élèves de la primaire au bac. La décision a été motivée par de nombreux témoignages recueillis sur place. Il ressort déclarations d'un certain nombre d'entre eux qu'ils étaient victimes de violences physiques, punitions qui s'apparentent à de mauvais traitements, pour certains de privation d'aliments et pour quelques-uns d'entre eux d'actes à caractère sexuel.
Ouais, enfin, à part la dernière chose que je conteste un peu, comment on fait un homme, à votre avis, devant une unité de
c'est vrai qu'il n'y a plus de service militaire maintenant.
À part les actes à caractère sexuel, vous assumez
le reste.
Tout reste vous.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait un homme.
Voilà.
C'est pas
normal. C'est plus comme ça puisque le procureur de la République du Cher a donc mené une enquête. La justice devrait réentendre prochainement plusieurs membres du personnel. Tout ça, ça fait compagnie. Vous savez comment il s'appelait celui-ci, qui était Monseigneur Lefebvre, tout ça,
oui,
c'est très
oui,
proche de Monseigneur Lefebvre. Le plus amusant, ce serait je vais essayer de suivre l'affaire pour voir cette fois-ci combien de parents porteront plainte, ou est-ce que, à l'image de ceux qui ont béni l'abbé Cotard, qui avait tué leur gosse, peut-être que le Seigneur, voilà.
Je suis pas sûr que je porte plainte, à part le dernier truc, là, qui me plaît pas trop, là. Et je vais voter Petit Chat, ça y est, je suis décidé.
Une dernière, vous avez pas Petit Chat, vous, c'est, Vieux Matou, vous avez, c'est le parti des Vieux Matou, c'est tout pourri. Moi, j'ai un truc, c'est marrant, Pordic. Pordic, ça vous parle pas, mais c'est le premier bled où j'ai habité, c'est à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Et Pordic a reçu, effectivement, une célébrité de poids en la personne de Marine Le Pen pendant les élections présidentielles. Et ça n'a pas traîné, c'est un article, vous voyez, il est tout petit, je l'avais découpé dans West Orchon, puis il avait glissé sous une feuille, je l'avais perdu. Et c'était amusant de constater que dès le lendemain, de la visite de Marine Le Pen, une putain de fresque que je connaissais, où on voyait des gamins de toutes les couleurs devant la porte de l'école, public, tous les petits blacks ont été les petits blacks et tous les petits jaunes ont été tagués. Point et repeint en blanc. Pordic, Côte d'Armor, c'est pas là que j'irai passer mes vacances.
Ouais. Allez plutôt à Rostredin.
C'est mieux Rostredin?
Bah, je crois pas.
J'ai pas l'impression.
alors c'est à moi.
Ah bah tiens, ça change là.
Manif agricole, tiens, un article qui va vous faire plaisir. Qui paiera les factures? Tiens, c'est à Pontivy, vous connaissez Madame Nini Pontivy?
Oui, un petit peu.
Eh ben les casses de l'été 2015 jusqu'au début 2016.
Les quoi?
Les casses d'agriculteurs.
Jacquerie, révolte,
on coupe les arbres, on pète tout dans la ville.
Quand on est d'extrême gauche, on parle de casseurs. Eux, on parle pas de casseurs, on parle
d'agriculteurs en colère.
Oui, on est d'accord.
Agriculteurs en colère ont coûté à la bonne ville de Pontivy 124 458 euros sans que la police n'ait procédé à aucune interpellation naturellement. Et du coup, la mairie dit ben oui, mais ça serait bien que ça soit l'État qui paye, parce qu'il dit finalement nous estimons que ces protestations donc des paysans vis-à-vis d'une politique nationale doivent être payées par l'État. Et il est hors de question que nous payons, sauf que l'État fait la sourde oreille, le préfet arrête pas d'appeler les services concernés qui lui disent bah non, il y a plus de sous, et puis c'est la transition, etc., etc. Macron hérite d'une petite facture, et du coup, comment? Et là, maintenant, les entreprises privées qui ont fait le nettoyage, eh bien, envoient des mises à demeure à la mairie, et personne ne veut payer. Peut-être aussi que c'est aussi la faute de certains politiques. Alors, je dis pas pour la mairesse de Pontivy, dont je ne connais pas les propos, mais vous rappelez de l'élu de Morlaix qui, après le sac de la MSA, de l'hôtel des impôts et de l'incendie de la MSA, avait dit on peut comprendre la colère des paysans. Super.
Ouais.
Et
ouais.
Qu'est-ce qu'il en est?
C'est marrant cette tolérance. Hein.
Ouais,
j'avais vu un documentaire fort intéressant sur les deux types de révoltes, l'ouvrière et la paysanne.
Ouais.
Et la paysanne a toujours reçu une forme de bienveillance et de compréhension alors que la révolte ouvrière a toujours été réprimée avec
et
force
jeunes,
et violence.
C'est encore pire.
C'est peut-être parce qu'ils votent à droite, voire extrême droite.
Une révolte organisée, organisée, syndiquée. Je parle la révolte des jeunes qui peut être moins lisible parce que paraissant moins politisé, c'est encore autre chose.
Et pareil, un petit mot là-dessus aussi sur le désastre économique qui paraît que ça coûtait beaucoup plus cher que la colère paysanne. Vous savez les bonnets rouges, les centaines de millions d'euros.
Et ça, c'est Hollande qui devrait payer ça sur sa petite retraite parce qu'il a quand même un petit peu flanché l'animal. Parce que en plus de ça, la droite était coincée puisque comme c'était NKM qui avait signé le décret d'application, la droite était forcément mouillée jusqu'au coude dans l'histoire des portillons et jamais. Effectivement, on aurait dû céder. Regardez en Suisse, comment dirais-je, les camions, pouf, sont montés sur des trains, sont trimballés sur des trains, point barre, quoi. Il est hors de question que les Suisses supportent n'importe quoi.
Attendez,
et pourquoi nous,
c'est
on
en Suisse,
pas payer,
hein, là, là. C'est en
non,
Suisse.
Mais les Suisses ont dit, ok, vous pouvez passer, mais vous payez. On vous interdit pas le passage, on vous dit que vous allez payer. Pourquoi on fait pas pareil? Faut quand même pas déconner. Sans compter qu'en plus, j'ai entendu des situations complètement folles, notamment celle d'un transporteur qui avait investi dans des camions plus écologiques, plus économiques, etc. Parce que le principe de ces portillons, c'était aussi d'inciter les patrons à s'équiper d'une flotte de camions moins polluants. Lui, il avait de la thune sur ce moment-là. Il a fait, il a dit tiens, c'est une bonne idée, cric-crac. Et maintenant, il se retrouve avec ses camions non polluants, avec qui lui ont coûté deux fois plus cher, sans aucune remise de peine, puisque les portillons ont été pétés. Ouais. C'est véritablement n'importe quoi.
Là, ils ont merdé parce qu'à l'origine, c'était pour faire payer aussi les camions étrangers. C'était ça.
Il y a
sûrement des camions étrangers qui vont sur Brest, mais bon, vous prenez l'autoroute qui traverse la France du nord au sud, inversement, là...
Ouais, mais il y en a beaucoup, parce qu'ils se faisaient par Roscoff, etc., tous les produits agroalimentaires,
qui venaient
de flotte de camions.
De chez les putains d'anglais, qui font partie de l'Union Européenne.
Et espagnols aussi.
Ouais, pour que le gouvernement ait cédé, on peut imaginer qu'il y a peut-être des enjeux qu'on maîtrise pas complètement. Après, on voit que le gouvernement a su ne pas céder sur la loi travail, et puis incarcérer... des manifestants.
Les bonnets rouges, par contre, c'est autre chose. Ils peuvent tout péter, ils embrouillent, et ça nous coûte des milliards, mon bon Jean-Loup, des milliards. Ouais. C'est nous qu'allons payer.
Vous parlez en francs, en euros?
Non, en euros.
Ah bon?
Pour des putains de connards avec des bonnets
euros.
Rouges, je m'en fous, c'est pas moi qui ai garé la bagnole dehors. Tiens. En fait, vous me dites, arrêtez de dire West France, ça vous énerve. Ça va encore m'énerver.
Mais oui, pas l'édito.
Moi, dans West France, je lis même la rubrique agriculture. C'est vous dire si j'épluche.
Qu'est-ce que vous devez vous ennuyer?
C'est non, je m'ennuie pas, mais il m'arrive aussi, mon bon Jean-Loup.
Vous êtes constipé, peut-être.
D'aller me soulager.
C'est une forme de perversion.
Vous êtes constipé.
Et j'emmène West France aux toilettes. Et du coup, c'est marrant parce que il y a un gros article avec une belle vache, des belles vaches sur un champ plein d'herbes. Et l'article s'appelle, ah, si on pouvait éviter éviter d'importer de la crème bio. La production bio française est insuffisante face à la demande, par exemple, en crème et pour le beurre. En Pays de la Loire, on veut améliorer la conversion. Bon, voilà, un article plutôt positif. On se dit, tiens, West France se mettrait-il au bio ? Et en fait, complètement à contre-courant, alors il y a un article, il y a une série d'articles qui s'appelle, très drôle, c'est l'intertitre s'appelle « Micro-sillon ». Alors, micro-sillon, ça ne dit rien, notamment à Tom, qui ne savait pas comment mettre le bras sur un tournevis. Vous vous rappelez, là, comme Ronari. Eh bien, les micro-sillons, Jean-Loup, mon bon Tom, pardon, ce sont les petites rides qu'il y a sur le Dix, et qui font, voilà. Et en même temps, micro-sillon, ça fait référence au sillon
de la terre.
De l'agriculture.
De l'agriculture.
D'accord.
Et il y a une rubrique qui s'appelle micro-sillon. Oui, ce sont des brèves autour de l'agriculture.
Attendez, qui existe depuis à peu près 90 ans et vous venez de comprendre le jeu de mots. Micro-sillon.
Ouais. Non, mais ça fait longtemps que je le connais, mais, et comme j'avais jamais eu l'occasion d'en parler depuis 30 ans, puisqu'on se connaît, ben, voilà, j'en parle.
Et alors, du coup, cette crème bio?
Eh ben, là, ce qui est rigolo, c'est que là, on dit, on fait pas assez de lait. En dessous, on dit, crise du lait, appel à manifester dans le Finistère. Depuis 2015, Électrique coopérative et privée sont devenus les maîtres du jeu. Ce sont elles qui distribuent les volumes et imposent leurs prix. Bref, le système agricole qui nous fout dedans, comment depuis des lustres.
Alors que le prix du beurre explose. Je parle même du beurre industriel.
Je ne comprends rien.
Eh bien, en fait, il y a un article où on vous dit pas effectivement, ça serait peut-être bien qu'on produise du bio.
Voilà.
Et de l'autre côté, un article où on soutient les paysans qui font du lait qui vaut que dalle.
Industriel, d'accord.
Parce que on vous explique dans l'article que j'ai pas eu le courage de vous lire, effectivement, que si on n'a pas assez de beurre, c'est parce qu'on ne fait pas de lait assez riche.
Voilà. Et
le lait riche en gras est plus riche et fait du beurre.
Oui, mais après, c'est pas bon pour le consommateur qui aime bien le...
Alors justement, je rebondis sur le cholestérol. Vous savez, on vous a dit que vous aviez du cholestérol avec le beurre.
Ah oui, vous prenez un exemple, vous pointez du doigt.
Ce n'est pas vrai. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Il y a eu toute une rumeur concernant le beurre qui est totalement fausse, à condition de prendre du bon beurre, mon bon Jean-Luc. Et c'est un véritable scandale, et on a fait chier des générations de cholestéroleux qui, en fait, avec du cholestérol, qui à cause du tabac, qui à cause du sel, qui à cause d'autres saloperies.
Le bon beurre, c'est le beurre de cacao?
Non.
Ah bah si.
Le beurre de, comment on appelle ça, le...
De vache.
Le beurre d'huile de palme. Le beurre de palme.
Ouais, c'est ça.
Une petite, je sais pas, vous avez...
Une dernière.
Oui, j'ai une question à vous poser.
Une dernière, on parle souvent des pays arabes, puisque justement, une dernière, j'avais mis de côté pour faire le lien avec notre invité de ce soir.
Attention, l'Iran n'est pas un pays arabe.
Non, j'allais parler d'Israël. Israël, ou puisqu'on va parler de l'Iran, d'un pays quand même qui a la réputation d'être quand même pas brillé par ses vertus démocratiques, eh bien en Israël, le gouvernement avait un problème avec la chaîne de télé publique qui disait du mal de lui. Vous savez, parfois c'est quand France Inter ou quelques chaînes publiques se permettent de quelques effronteries, on va dire, ou quelques questions qui gênent. Eh bien c'est simple, le gouvernement a décidé de fermer la chaîne. Jour au lendemain, alors comment qu'est-ce s'appelait la première chaîne de télévision publique israélienne, Kol Israël, le France Inter de l'État hébreu, a été réduite au silence par le Premier ministre qui y voyait des repères de gauchistes. Comme ça, le discours est clair et c'est efficace.
Et Israël s'enfonce de plus en plus dans une
dictature.
Ouais.
Vous êtes antisémite, antisioniste. Attendez, quand on parle du juif, faut faire extrêmement attention.
On n'a pas parlé de juif.
C'est le mot juif, c'est vous qui parlez d'Israël.
On a parlé d'Israël. Non, mais c'est un peu bête de...
C'est un état laïque?
On parle... Non, ce n'est pas un état laïque. C'est un état religieux, puisque pour pouvoir être israélien, alors, c'est un petit peu compliqué, mais pour pouvoir être israélien, il faut être...
Circoncis?
Juif. Alors la circoncision, c'est aussi les musulmans, hein, donc c'est pas...
Comme ça, on joue sur les deux tableaux. Oui, allez-y.
Je trouve dommage que vous fassiez le lien juif, gouvernement, enfin État fasciste et juif, parce que c'est pas de ça dont il s'agit. Le gouvernement israélien mène une politique fasciste. Mais c'est pas la question.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. J'ai pas prononcé le mot juif en plus. C'est vous qui l'avez fait.
Ouais.
C'est dingue. Ça fait un Tom.
Oui, oui, oui.
Ah, ah.
Et je sais pas, j'ai une dernière question à vous poser. Bah, tiens, ça fera peut-être le lien avec notre invité.
Moi, j'ai essayé de faire le lien, mais vous m'avez cassé.
Bah, là, si je vous parle de Qatar, si je comprends bien.
Oui, il faut
le...
en parler.
Ah, bah voilà, vous savez, vous qui êtes le spécialiste.
J'ai oublié.
Ah, si je comprends bien, le Qatar soutient un état terroriste qui s'appelle l'Iran. Non, c'est ça que dit l'Arabie Saoudite.
C'est plus compliqué que ça.
Je m'en doute bien, elle.
Alors, j'ai lu un truc ce matin qui est assez amusant. Alors, ils accusent, en fait, l'Arabie Saoudite, forte du soutien de Donald Trump, qui a promis de lui vendre pour près de 300-400 milliards de matos militaires divers, accuse le Qatar de soutenir les frères musulmans. Les frères musulmans qui sont installés principalement en Égypte et qui font chier Al-Sisi, le dictateur égyptien, et qui, du coup, le dictateur égyptien étant un petit peu le protégé de l'Arabie Saoudite. En même temps, vous savez quand même, alors on l'oublie, hein, c'est ça qui est complètement dingue, mais au Yémen, il y a une guerre qui fait des morts tous les jours. En ce moment, il y a le choléra. Il y a le choléra en ce moment au Yémen, parce que c'est un peu le bordel, alors que le choléra, aujourd'hui, on sait le soigner. Il faudrait de la flotte et quelques médocs. Mais on n'arrive plus à le soigner parce qu'on est dans des zones en guerre. Et le Yémen...
guerre menée par l'Arabie Saoudite.
Ouais, et le Yémen est sous les coups des bombes de l'Arabie Saoudite qui ne supporte pas que puisse s'installer une enclave chiite au sud de son pays. Voilà, donc pas de chiites, même pas chez eux. Côté de chez eux, pas question.
Ouais, faut savoir que le Qatar est sunnite et donc n'a pas comme ça de sympathie particulière avec l'Iran. Par contre, ils ont des échanges commerciaux. Voilà. Il y a un prétexte qui est très complexe. Pourquoi tout d'un coup le Qatar dans la région est ostracisé? Ça reste très complexe. À mon avis, il y a certainement des enjeux économiques obscurs au-delà d'une réelle volonté de lutter contre le terrorisme. Que le Qatar défende les frères musulmans, bon, bah, l'Arabie Saoudite soutient Daesh, et il y a eu moult preuves que l'Arabie Saoudite a pu protéger des djihadistes et a pu aussi armer Daesh. Donc en fait, c'est totalement incompréhensible en termes de d'actes géopolitiques.
On appelle ça l'Orient compliqué.
Voilà, mais c'est surtout que Donald Trump, qui est quand même un énorme con psychopathe, n'a aucune idée des enjeux divers et variés, ou alors s'il en a idée, c'est un grand pervers. Le fait que le Qatar soit ostracisé ou que l'Iran soit dénoncé comme étant un soutien de Daesh, alors que Daesh, la preuve en est faite aujourd'hui.
Puisqu'ils ont eu deux attentats.
Voilà. Et puis Daesh, il y a encore quelques années, a dit qu'ils envahiraient l'Iran pour que l'Iran redevienne une terre sunnite. L'Iran étant chiite. Dans le monde, il y a 90% de sunnites et 10% de chiites. Et l'Iran, c'est 90% de chiites dans la région. Donc l'Iran c'est d'abord et avant tout une affaire de chiisme et de sunnisme.
Ah, ça, c'est les deux branches de la religion.
Enfin, les deux grosses branches, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein.
Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas une histoire de successeur du prophète, c'est ça là?
C'est la bataille du chameau, on l'appelle.
Alors c'est quoi? Allez-y.
Du chameau, c'est lorsque Abou Bakr, l'oncle de Mahomet, s'est heurté au gendre de Mahomet, Ali, et il y a eu une bataille du chameau. Au cours de laquelle Ali a été vaincu. Et
quand Mahomet est mort,
il n'avait pas de descendants, c'est
ça? Il n'avait pas de descendants.
Il avait combien? 5 femmes et pas de descendants.
Il n'avait pas de descendants.
Il avait des filles, il n'avait pas de garçons.
Oui, il avait des filles, il y avait notamment Fatima.
Son gendre. Ali, c'était son gendre.
Ouais, et la question était de savoir, est-ce que c'est son meilleur copain, donc Abou Bakr, ou est-ce que c'est Ali qui avait une filiation directe parce que ça devait être son beau-frère? C'était son gendre.
Même vous, voilà.
J'arrête pas de lui dire que c'était son gendre.
Ouais.
Oui, mais je comprends pourquoi il y a eu un schisme, si même vous comprenez.
Et puis voilà, c'est parti de là, donc il y a 1400 ans.
On reviendra là-dessus, mais en tout cas, une particularité en Iran, puisqu'on y revient à Drahi, après le petit Dix, c'est peut-être aussi un petit côté nationaliste de la part des Iraniens qui avaient été envahis par les Arabes, de revendiquer une forme différente de l'islam, rien que pour faire chier les Arabes, parce que eux, ils n'en sont pas.
Alors, si vous voulez,
c'est certain qu'il y a quelque chose du côté d'une fierté à se dire perse. Et j'ai été régulièrement confrontée à des propos anti-arabes très forts.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont arabes.
Ouais. Et comme je pense que les arabes n'apprécient
l'être
pas beaucoup les
Perses. Définitivement con, je crois.
Ouais, je crois.
Ouais. Allez, un petit disque, on discute de tout ça. C'est parti.
Ah, ils peuvent pas. We'll be right back.
show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids, show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Set them up, kid. Set them up.
up to you now. I look down. There's wood in between me, you and me. Handfuls of dirt in between. Underneath, I'm lacy and red like you said I should wear. Will you to take a peek underneath? Will you still need a drink when you're dead? Cold in between me, my thighs, empty and cold in between.
Ils ont exploré des jungles inextricables. Connu la soif dans les déserts brûlants. Découvert des sommets drôlement hauts. Côtoyé les sauvages les plus primitifs. Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant qu'anthropologue, Ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
Eh bien voilà, ce soir, je le dis pour ceux qui auraient pris l'émission en retard, nous recevons Mme Nini, hein, c'est elle qui a choisi son nom, hein, donc on va respecter Mme Nini, tant pis. Les gens interpréteront ça comme ils le voudront. Mme Nini qui revient d'un périple en Iran.
Et on s'était dit un petit périple de trois semaines.
Mais quand même, plus que nous, on a pas. Vous avez été en Iran, vous, Jean-Loup?
J'ai failli, sauf que j'étais trop jeune à l'époque du char. Ouais, je pense que c'était cool.
Et vous, Tom, vous avez été en Iran?
Non.
Non, et ben moi non plus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'était dit, tiens, parlons de l'Iran, ça pourrait être l'occasion, en votre compagnie, peut-être de démythifier certaines idées reçues sur l'Iran. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi l'Iran? Je sais que vous voyagez vous allez notamment en Asie.
C'était un peu ça, j'ai dit, mais quelle idée d'aller en Iran?
Alors avant de répondre à la question, pour moi il est hors de question de parler de l'Iran. Dans le sens où je peux éventuellement parler d'impression de voyage, de ressenti, et éventuellement venir dire comment j'ai perçu certaines choses, mais je peux pas parler de l'Iran, ça serait très très présomptueux. Je ne sais pas.
Question suivante.
parce que ça me faisait vibrer, c'est difficile en fait de savoir.
Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous intéressait du coup dans ce pays?
Alors moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'aspect humain, la claque qu'éventuellement j'allais prendre dans ma petite rencontre avec la société iranienne. Après, derrière, il y avait tout un plaisir de visiter tel ou tel monument ou mosquée, mais il y avait d'abord avant tout une curiosité viscérale à aller voir comment ça fonctionnait là-bas de ma place.
Et c'est vrai que nous, à notre époque, on nous l'a vendu, l'Iran, Roménie et compagnie, à la guerre, Daesh et lui, c'était plutôt des babas par rapport à ce qui se passait en Iran. Vous vous souvenez, il y a quelques années aussi, la marque de, je sais plus, de grues japonaises ou coréennes du Sud, qui avait arrêté d'exporter justement leur matériel en Iran à cause des pendus
aux grues,
justement, qui donnaient une mauvaise image de leur marque, parce que malheureusement, on voyait leur marque.
Et c'était pas en Arabie Saoudite, ça, c'est pendu aux grues.
Non, il y a eu des.
Ouais, en Iran, ouais.
Il y a des pendus aussi en Iran.
Et apparemment, en voyant des documentaires à droite à gauche, l'air de s'ouvrir un peu plus. Je sais pas, la Roménie, elle est.
Alors c'est très complexe parce que effectivement, je n'y ai passé que 3 semaines. J'y ai été en tant que touriste. Donc je pense avec du coup une place très très privilégiée. Après,
on va dire, vous n'avez pas fait un touring tour. Vous étiez parti avec une amie.
Voilà, et puis on a crapahuté de droite de gauche en se débrouillant pour trouver nos transports et nos lieux d'hébergement. On a été hébergé chez des gens où on s'est hébergé à l'hôtel. Je veux pas laisser entendre que en Iran tout est super, qu'il y a une ouverture et que ça respire la liberté. Ça serait un peu trop facile. Cet hiver, il y avait encore des homosexuels pendus
sur les grues japonaises.
Alors en ville, en tout cas, on met en prison des blogueurs, des jeunes femmes ou des jeunes hommes pris en train de s'embrasser ou de faire la fête ou de s'alcooliser, eh bien risquent les coups de bâton, voire la prison. Il n'y a pas de liberté d'expression. On va dire donc ça c'est quand même c'est un système politique extrêmement verrouillé, ça ne rigole pas. Moi, ce qui m'a énormément surprise, donc là je vais vous faire part de cette petite expérience, ce qui m'a énormément surprise, c'est que ils sont quand même vachement décomplexés de l'opinion quand on les rencontre. Donc le chauffeur de taxi qui nous montre une photo de Roménie dans la rue, parce qu'il y a des photos de Roménie et de Khamenei partout.
Les deux guides de la révolution, hein, depuis la mort de Roménie.
Voilà, il y en a eu que deux. Voilà. Et Khamenei, qui est sur le point quand même de lâcher la rampe, là, il est quand même très très vieux. et le chauffeur de taxi qui nous montre une photo en disant ah, not good, not good, voilà.
Ah ouais,
carrément. Ou un hôtelier pareil, l'amie qui était avec moi, son foulard tombe parce qu'on a passé le temps à dire merde mon foulard, vu que c'était un peu compliqué de voyager avec le foulard,
de le faire tenir.
Et puis l'hôtelier qui rigole et qui pareil montre la photo des deux guides suprêmes en disant ah, oh, on s'en fout. Et voilà, quand
les... Un provocateur peut-être.
Ben on a eu plusieurs fois ce type d'expérience où quelques Iraniens qui rigolaient parce que nous on était là, ben on peut pas aller sur Facebook, on n'a pas accès, et eux rigolant parce que eux, ben évidemment ils contournent avec tout un tas de procédés informatiques. Donc en fait, voilà, j'ai bu du vin en Iran et chez la personne chez qui j'en ai bu disait mais c'est aussi facile que de trouver du shit en France. De trouver de l'alcool en Iran.
Donc, il y a un côté assez hypocrite.
Bah pas hypocrite, c'est comment des gens qui sont réprimés, opprimés, qui arrivent à contourner des règles pour s'offrir un peu plus de liberté. On a vu. Alors, en fait, ce qui est aussi super intéressant, c'est la ségrégation spatiale, c'est-à-dire que à Téhéran, au nord de Téhéran, et le sud de Téhéran, c'est deux mondes totalement différents. Le nord est aisé, très occidentalisé, on a vu des hommes et des femmes se tenir par la main, s'embrasser, dans des parcs que le foulard tenait quasiment plus sur la tête, et au sud où se trouve le mausolée de Khomeini, parce que en fait Téhéran est immense, hein, le mausolée de Khomeini, il est à 20 km du centre de Téhéran. Voilà. Donc on y va en métro, mais enfin vous voyez la taille du machin quoi. Et là, eh ben, c'est des femmes habillées de pied en cap,
en noir.
Voilà, c'est beaucoup plus pauvre.
Traditionnaliste.
Et plus traditionnaliste.
Alors, justement, une dernière question, comme, j'avais levé la main.
Non, vous levez toujours la main, là.
Bah oui. Et, vous avez, tu sais, pour en revenir à cette idée d'aller en Iran, comment vous aviez voyagé en Israël avant? Et du coup, au niveau du climat, vous parliez du chauffeur de bus qui était plutôt cool, etc. Le climat, au final, vous le trouvez presque plus cool en Iran qu'en Israël ou quoi?
Je l'ai ressenti plus détendu. Jérusalem n'est pas une ville où on est détendu du cul. Hein, on est quand même un petit peu. Alors après, c'est pareil, c'est une petite, c'est une courte expérience. Hein. J'ai passé une semaine à Jérusalem, mais c'est vrai que les échauffourées, les tirs. Les provocations notamment des juifs orthodoxes vis-à-vis des musulmans, j'ai vu, donc ça met en tension un peu tout le monde là-dedans. Sur le temps où j'ai été à Jérusalem, oui, c'était pas en Iran, j'ai pas du tout vécu j'ai vécu des moments un petit peu étranges, mais j'ai pas vécu de points de tension où on se dit c'est chaud les marrons quoi.
Une petite question, qu'on s'écoute un petit disque. Donc vous prenez votre décision de partir en Iran. Comment on fait pour partir en Iran? Un passeport?
Alors, c'est très compliqué. Mais c'est pas compliqué. En quoi c'est compliqué? Alors déjà, vous disiez que j'étais allée en Israël, voilà. En fait, quand on est allé en Israël, on n'a pas le droit d'aller en Iran. Le gouvernement iranien n'accepte pas des gens qui sont allés en Israël. Les Israéliens sont suffisamment malins pour ne pas tamponner nos passeports, ou alors j'en aurais fait refaire un autre. Aujourd'hui, les États-Unis souhaiteraient que ça existe, mais aujourd'hui, il n'existe pas de fichiers internationaux des vols. C'est-à-dire, c'est un souhait des États-Unis. Hein. C'est-à-dire que quel que soit le pays où on va, aujourd'hui, c'est très archaïque, notre système de voyage. On tamponne un passeport. Un jour, eh bien, un ordinateur mondial saura qu'on est allé dans tel pays. Et il faut savoir que en allant en Israël, normalement, je n'aurais pas pu aller en Iran. Aujourd'hui, je suis allée en Iran, je ne peux plus aller aux États-Unis.
C'est vrai, vous ne pouvez plus aller aux États-Unis.
Voilà, donc c'est plus compliqué que ça. En tant que ressortissante française, comme je suis française, j'ai quand même le droit d'aller aux États-Unis, mais contrairement à mes compatriotes qui ne sont jamais allés en Iran, je devrais m'acquitter d'un visa extrêmement cher pour pouvoir mettre un pied aux États-Unis parce que je suis allée en Iran.
Ah ouais, quand même.
Voilà.
Donc alors, c'est la nouveauté avez... Trump ou
Non, c'était avant Trump. J'aurais bien voulu lui mettre ça sur le dos en plus, mais c'était déjà avant Trump.
Donc alors, vous avez un passeport. Il faut un visa, faut une...
Alors en fait, le visa, il y a deux options. Soit parce que normalement, dans les voyages que je faisais, j'envoyais mon passeport à Action Visa à Paris en recommandé, et puis c'est eux qui font les démarches à l'ambassade. Pour beaucoup de pays, ça fonctionne comme ça. Pour l'Iran, il faut se déplacer à Paris, faire un relevé d'empreintes digitales. Et financièrement, ça nous paraissait compliqué de nous déplacer à Paris, d'y passer une nuit, voire deux, de même pas être sûr que l'ambassade soit ouverte. Ouais. Donc, on a fait le choix, parce qu'on avait lu sur des forums que c'était possible, on a fait le choix de, une fois à l'aéroport, acheter notre visa. À l'aéroport de Téhéran, on peut arriver jusqu'à l'aéroport de Téhéran sans visa et l'acheter sur place. On avait un petit peu peur... Parce que juste avant, Trump avait redit que l'Iran était l'ennemi juré, voilà. Et du coup, on s'était demandé si, voilà, géopolitiquement, il y avait des choses qui pouvaient bouger. On sait bien, on regardait sur le ministère des Affaires étrangères régulièrement pour savoir si les conditions d'accès à l'Iran changeaient ou pas. Et du coup, on a pu acheter notre visa à 4h du matin. Ça nous a coûté très cher, 75 €. Je le dis parce que c'est quand même un visa très cher pour un visa qu'on achète sur place. Normalement, c'est des tarifs ambassade.
Mais si vous étiez monté à Paris, c'était le prix même pas d'un aller en TGV.
Ben hein. C'est ça. Donc de toute façon, c'était plus intéressant de le faire comme ça. Et puis ben après c'est tout. Là où c'est compliqué, ce qu'on a, j'ai un petit peu voyagé. Là où on a trouvé les choses très compliquées. Plutôt compliqué, c'était que le pays est quand même extrêmement fermé au réseau Internet. Donc, vous pourrez faire l'expérience si vous allez sur TripAdvisor ou e-booking pour booker un hôtel, vous allez avoir 2-3 hôtels qui vous seront proposés de France, des hôtels 32 étoiles hors de prix. Donc c'est compliqué. Donc on a attrapé des mails sur des forums, on s'est débrouillé, on n'a pas pu réserver tous les hôtels qu'on voulait. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire de France. On avait peu d'infos. Réserver un vol intérieur, ça a été ça a été très 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 compliqué en partant de France parce que énormément il y a peu de sites,
les infrastructures touristiques sont pas encore tip top.
Non, il y a quand même très 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 peu de choses. Et puis une fois sur place, on pensait qu'on se débrouillerait un peu plus facilement, sauf que on avait accès à quasiment rien sur Internet. Les sites auxquels on pouvait avoir accès, c'était des sites iraniens. En iranien, et que du coup après, bah c'est le bouche à oreille, les coups de main, les chauffeurs de taxi qui donnent des coups de main aussi si on cherche un hôtel.
On va s'écouter un petit disque et je repensais, vous savez, à votre machine à tatouer automatique. Bah, au lieu de mettre un tampon sur le passeport, hop, le mec qui met son bras, clac, paf, tatoué, j'étais dans tel ou tel pays, ça simplifierait peut-être la tâche de beaucoup de gens.
C'est pas bête. Les Américains vont y penser.
Sais pas, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se brûler les extrémités des doigts pour supprimer leur empreinte digitale.
Mais ça se voit qu'ils n'ont pas
le droit. On aura des puces derrière l'oreille bientôt avec tout dedans.
Comme les chats.
Allez, un petit disque. Oh, vous parlez du parti animaliste. Il est mignon.
She could hold her own in the pool. She knew all the strokes that were cool. She would always fret when she lit a cigarette. From the right or from the left, which way should I light my cigarette? Which way should I light my cigarette? Oh, if I forgot the time she would croon to the tunes of the electric brooms, and that she'd like to twist her pocket she fist. She would hit you round the wrist if her lips you would attempt to kiss. We'll be right back.
toujours. Ah, je vous
bien,
ai eu,
bien,
là.
Bien.
En fait, continuez. Non, faut détourner ça. Ouais, faut le détourner.
Mais continuez, n'arrêtez pas.
Eh ben, Fontaine, c'est moi. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Mimi.
Vous faites des démarches pour aller en Iran. Moi, une petite question, c'est comment on prévoit son itinéraire? Est-ce qu'il y a des guides qui existent ou ce genre de choses qui vous permettent de...
Alors, c'est vrai qu'en général, quand on prévoit de partir en voyage, on va à la librairie Ariane à Rennes. Alors, je fais de la pub, j'ai aucun intérêt, j'ai pas d'action.
Alors, j'ai essayé de les avoir. Personne n'était libre. Je suis passé hier, trop tard, malheureusement. Mais effectivement, c'est une excellente librairie qui concerne.
En tout cas, en général, on cherche un guide de voyage et puis effectivement, on se dit bon, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Comment on fait l'itinéraire? On sait qu'on a 3 semaines, donc c'est aussi en termes de timing, hein, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire. Et alors là, ça a commencé à être compliqué, parce que des guides sur l'Iran, il y en a très 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 peu, contrairement à des guides sur la Belgique ou Cuba. Ouh. Où on peut avoir toutes les éditions possibles et imaginables. Donc les guides sur l'Iran, on en a en français. On en a trouvé 2. Un très chouette, culturellement super intéressant, avec un texte bien écrit, de belles images, mais alors pas du tout pratique, très peu de cartes, voilà. Et puis, il y avait le Lonely Planet, alors je suis de marque, on s'en branle. Il y avait le Lonely Planet qui avait 3 ou 4 ans, qui devait avoir au moins 4 ans, et alors du coup 4 ans c'est totalement obsolète. À la librairie que j'ai citée précédemment, ils savent aussi conseiller hein, et dire ça vaut pas le coup d'acheter. Et il y avait, alors là pour le coup je suis extrêmement en colère, il y avait Le Petit Futé.
C'est la première chose qui serait venue à la tête. Hop, tiens, je vais regarder sur Le Petit Futé.
Voilà, donc il y avait Le Petit Futé sur l'Iran. Faut savoir que le routard
Iran, on aurait dû vous méfier.
Faut savoir que le routard ne fait pas l'Iran pour des raisons éthiques. Bon, l'éthique ne tient jamais forcément trop dans le temps. J'ai entendu dire qu'ils étaient en cours de réalisation d'un guide sur l'Iran. Mais pendant des années, ils ont refusé de faire un guide sur l'Iran. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Alors, Le Petit Futé, à la librairie Ariane, ils nous ont regardé en disant, c'est vraiment pas un bon guide du tout, du tout. Et ils étaient très honnêtes. Et on s'est dit, on va quand même le prendre. Il y avait pas mal de plans. Il s'est avéré que c'était une énorme bouse, que aucun numéro de téléphone d'hôtel, par exemple, n'était bon. Donc ce qui est un peu emmerdant quand tu galères à trouver des hôtels, que les plans étaient plus qu'approximatifs, que parfois il y avait énormément d'erreurs, qu'il y avait aussi énormément d'erreurs dans leurs commentaires, qu'il y avait des fautes de frappe, des fautes, c'était un véritable cauchemar. 20 balles pour un guide qui nous a fait hurler et que j'ai foutu à la poubelle à Téhéran le dernier jour.
On sait jamais,
des fois qu'ils auraient un bon plan pour finir.
Voilà, à la fin, on regardait toujours, mais vraiment,
Vraiment tout pourri. Donc, le petit futé Iran, c'est tout pourri.
C'est scandaleux et, c'est scandaleux au point où, j'envisage pas de porter plainte, hein, mais de leur envoyer un mail d'insulte, hein. Parce que c'est vraiment scandaleux. Un guide de voyage est jamais complètement à jour, mais alors là, c'était vraiment le pompon. Un exemple, par exemple, la monnaie en Iran, c'est le rial. Donc c'est comme ça. Et quand on est arrivé en Iran, quelle ne fut pas notre surprise, donc 1 euro c'est 40 rials. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir en Iran que deux Iraniens sur 3 parlent toman. Donc ce qui change beaucoup de choses puisque c'est 1-0 de moins le toman que le rial. Ce qui a produit des imbroglios pas possibles. Un guide comme le Lonely Planet ou le Routard, on aurait cette information-là parce que c'est des guides, c'est des gens qui vont hein, dans les pays. Et c'est vraiment un espèce de béaba. Donc voilà, à aucun moment il est question du toman dans Le Petit Futé. Voilà. Donc après, on a regardé plus attentivement le guide. On avait des envies chacune. Et puis après, on a fait un itinéraire. Un petit peu classique, je dirais, c'est-à-dire les grains de beauté de l'Iran.
Je vous avais tanné, parce que je savais que vous alliez en Iran, je vous avais tanné pour la grande mosquée bleue d'Ispahan.
Voilà, qui s'appelle en fait la mosquée de l'imam, mais vous tenez absolument à l'appeler la mosquée bleue, et on va continuer.
C'est vrai que quand même, historiquement, elle était connue comme ça, pour les occidentaux en tout cas.
Donc effectivement, vous m'aviez demandé un selfie, devant la mosquée bleue, et vous l'avez eu.
Je l'ai eu plus tard, c'est-à-dire je l'ai eu qu'après votre tour, parce que ma chérie l'avait filtré, et elle l'avait, elle, reçu.
reçu et elle avait prétendu n'avoir rien reçu. Je l'ai vu qu'à votre retour parce que vous aviez gueulé.
Voilà, c'est ça. Oui, j'avais réclamé.
Et une petite question. Vous déboulez à Téhéran. Qu'est-ce qui frappe? Qu'est-ce qui choque?
Embouteillages.
Et, le voile, dès qu'on sort de l'avion.
Alors en fait,
vous distribuez des voiles.
Non.
Comment ça se passe?
Alors en fait, il fallait venir avec son équipement. Alors ça, c'est très très troublant puisque alors bon, moi j'avais vu quelques documentaires, j'avais lu des choses, mais par contre effectivement, et Marjane Satrapi hein, dans Persepolis hein, raconte ça. Hein, on atterrit à Téhéran. Personne ne dit quoi que ce soit. Hein. Il n'y a pas le commandant de bord qui dit mettez votre foulard, mesdames. Il y a une espèce de voilà de principe. Toutes les femmes se sont couvertes avant avant l'ouverture des portes.
Alors qu'avant, même les Iraniennes étaient décoiffées. Je veux dire, c'est-à-dire qu'elles ne portaient pas le voile.
Ouais.
Et alors, si vous le portez. Enfin, je sais pas, bah vous êtes pas, faites pas attention, bah tiens, apparemment on m'oblige pas. Il y a une pression qui vous oblige à le faire ou...
Alors de notre place à nous, je pense qu'il y a une forme d'indulgence. Ça nous est arrivé hein, que notre voile s'envole, ce genre de choses. Notre tenue était quand même pas hyper halal, hein, c'est-à-dire que on avait les bras couverts, on avait effectivement le foulard, mais on a ressemblé à rien pendant 3 semaines parce que on n'a pas la classe des Iraniennes. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que donc ce qu'ils appellent le foulard, pour que les auditeurs comprennent, à minima, une femme iranienne doit avoir les bras couverts, les chevilles couvertes. A priori, les pieds peuvent être nus, mais on n'a pas vu d'iranienne pieds nus. Elles doivent avoir un manteau à minima mi-cuisse, mais on est plutôt sur les 3/4 cuisses.
Ou un manteau, une espèce de voile, une veste, un truc
voilà.
Comme ça.
Voilà, donc ça c'est à minima. Donc on a vu beaucoup d'iraniennes hyper sexy, dans des trucs super moulants, mais effectivement avec ces couvertures-là. Donc il y a des températures, nous on est quand même habitués en France à être en marcelle et vite fait en short. Les iraniennes supportent un peu plus de vêtements que nous. Donc on a vu beaucoup d'iraniennes très occidentalisées, très libérées, avec le foulard qui pendouille juste au-dessus du chignon, où on voit bien leurs mèches de cheveux et leurs cheveux de biche. Et puis il y a à l'autre extrémité des femmes, beaucoup hein, de femmes effectivement, en tchador. Tchador qui est un terme perse. Tchador qui est un terme perse hein, qui veut dire tente, à ne pas confondre avec la burqa des pays arabes. Hein, le tchador c'est vraiment une tenue spécifique à la Perse. Bon, en gros c'est tout noir avec
chauve-souris.
C'est chauve-souris, ouais, ouais.
Alors justement, je lève la main.
Oh, c'est pas un moment où vous la levez.
Je finisse ma phrase.
Alors, quand vous êtes parti, je vous avais pas demandé le selfie de la mosquée bleue, ça j'ai eu. Et je vous avais demandé des photos d'iraniennes. En fait, j'ai une pauvre mémère qui est vautrée contre un mur, qu'on croit qu'elle est bourrée, elle a une vieille peur.
C'est
vieille
moi truc. C'était moi.
Non, c'était pas vous. pourquoi vous nous avez pas ramené de jolies photos qui auraient pu un peu aguicher mon ami Jean-Loup aussi? Est-ce que l'iranienne, effectivement, j'ai le mythe de l'iranienne très belle, très ouais. Avec des yeux noirs, marqué avec du col et tout. Est-ce que
alors,
c'est ça?
Oui, alors, bon, je prends pas de photos des gens parce que je suis toujours extrêmement embarrassée avec ça et ça me gêne et voilà. Et du coup, j'ai pas, sauf à ce qu'on me demande. Alors par contre, j'ai pas arrêté de prendre des photos d'iraniennes parce qu'elles voulaient être prises en photo, ceci, cela, et que du coup, je leur donnais un coup de main. Après, oui, alors, je sais pas, oui, elles sont, enfin, en tout cas, les iraniennes dont on voyait le visage, elles étaient nombreuses, elles étaient très apprêtées, très maquillées, très féminines, et on ressemblait vraiment à rien, nous, parce qu'on savait pas du tout adapter ces codes qui leur sont imposés. Pour
et
en faire
contourne,
qu'elles contournent, c'est-à-dire que elles peuvent avoir effectivement, elles peuvent être couvertes de la tête. On a vu des jeunes femmes en leggings, en pantalon extrêmement moulant, ce qui est pas tellement toléré. Moulu, pardon. Ce qui n'est pas normalement tout à fait acceptable, mais elles sont quand même couvertes. Elles trouvent des façons d'être extrêmement séduisantes, ravissantes. Là, je parle des iraniennes les plus occidentalisées et les moins concernées par la religion.
Ah, vous parliez tout à l'heure justement, apparemment en façade extrêmement rigide au niveau de l'alcool, etc., etc. Et intrafamilial qu'on a intégré, on peut trouver du, on peut trouver de l'alcool.
Eh ben, en fait, oui. Alors ça, moi, je l'avais déjà vu dans un documentaire sur Arte là que j'avais vu quelques temps avant mon voyage. Je peux te dire que ils en font des bamboulas. Hein. En tout cas, dans ce documentaire.
Par contre, les risques sont énormes.
Par contre, les risques
vous
sont.
Vous parliez de dealer de shit là. Au pire des cas, il a un rappel à la loi.
Voilà,
ou
amant, exactement.
Mais là, on risque sa vie quelque
tout
part.
Tout à fait. On risque. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que trouver un dealer pour acheter de l'alcool et puis faire la bamboula à la maison, c'est prendre le risque d'être entendu par des voisins qui peuvent être des Basidji et qui peuvent dénoncer.
Alors les Basidji, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
Alors les Basidji, c'est un groupuscule, une espèce de bras armé à côté des gardiens de la Révolution qui sont en civil. En fait, c'est une milice, quoi. Voilà. Comment une dictature peut-elle tenir en place? Eh ben, par une armée de délateurs.
Comme on
ne sait pas qui est son voisin, eh bien, ça produit une espèce d'autocontrôle. Puisqu'on ne sait pas, c'est assez typique de tout gouvernement totalitaire ou dictatorial, c'est que le risque d'être dénoncé. Et donc en fait, effectivement, ils encourent, comme des jeunes femmes qui ont pu mettre une photo de profil Facebook étant interdit, où elles sont sans voile, se retrouver avec 40 coups de fouet.
Ah ouais, quand même.
Petite question, il y a des lois qui sont rigides, est-ce qu'il y a une forme de corruption où je fais la Java, où les flics arrivent, on vous donne un petit billet, ça existe ou pas?
Alors moi, je l'ai pas constaté, mais pour avoir lu beaucoup de choses sur l'Iran, notamment un bouquin que je n'ai pas amené, c'est dommage, qui s'appelle Sans questions sur l'Iran, qui est fait par des sociologues et des historiens, l'Iran est un des pays les plus corrompus au monde.
Ça peut aider.
Donc on peut imaginer que la corruption, elle est effectivement dans les hautes sphères, mais qu'elle est aussi peut-être qu'une famille aisée qui se fait choper en train de faire la bringue aura peut-être moins de soucis que des prolos qui pourront pas payer le bachiche. C'est une hypothèse.
Il y a Roger qui jubile. Allez-y, Roger.
Sur la place, je jubile pas, j'ai levé la main. Et sur la place des femmes, vous avez discuté, vous étiez chez une logeuse. Quelle ne fut pas votre surprise de la voir arriver avec une bouteille de rouge, etc. C'est avec cette jeune femme que vous avez eu la discussion de savoir, comment vous faites pour vous en fournir, etc. Vous m'aviez raconté ça. Est-ce que vous avez discuté un petit peu de la place des femmes dans la société iranienne avec cette... Est-ce que c'était pas l'occasion d'en parler? Est-ce que vous en avez parlé avec elle ou avec quelqu'un d'autre?
Alors, on peut pas dire qu'on en ait vraiment trop parlé. Alors, elle s'inquiétait. Elle disait, ça doit être dur pour vous de porter le foulard. Pour toi aussi ça doit être dur. Faut savoir que notre logeuse, c'est quand même pas l'iranienne typique, hein, c'est une jeune femme plasticienne qui a vécu au Canada, en Allemagne, qui est extrêmement libre et libérée, la femme la plus sexy du monde dans son appartement, et que du coup
c'est vrai.
Ouais, elle était absolument charmante. Vous me regardez. Et que du coup, elle a fait le choix de revenir s'installer en Iran parce qu'elle a aussi sa famille et ses attaches. Mais après, je pense que dans son être, dans sa vie, elle est une femme libre et il n'y a pas forcément besoin de se dire. Qu'est-ce qu'elle pense? On n'avait pas forcément besoin de lui poser la question de ce qu'elle pensait.
Non, mais par exemple, je sais pas.
Elle a pu nous dire un truc qui nous a étonnés. Elle nous a dit, ça serait quand même bien que les Occidentales n'aient plus l'obligation de porter le voile quand elles voyagent en Iran. A priori, ça fait partie des choses que Hassan Rouhani
voudrait faire.
Voilà. Moi, j'étais un peu choquée par ça parce que moi, je pense qu'il faudrait abolir l'obligation de porter le voile tout court.
Tout simplement.
Et pourquoi privilégier les Occidentales?
J'avais lu un tout petit bouquin que je trouve salutaire. C'est le bouquin de Javad Chavan, Comment bat les voiles, où c'est une Iranienne qui raconte quand effectivement elle est pour l'interdiction totale du voile, même chez nous, parce qu'elle dit, c'est dit, enfin, son
non,
discours,
non, je,
elle...
c'est pas pour, moi je ne suis pas pour l'interdiction du port du voile. Je suis pour
mon avis. Je dis pas que c'est mon avis. Je parle de l'avis de cette autrice qui disait qu'effectivement elle ne comprenait même pas qu'on exprime une vague tolérance là-dessus, parce que pour en avoir gobé chez elle et qu'on lui l'a imposé, elle ne comprenait pas que chez nous on puisse être tolérant vis-à-vis de ce que elle considérait quand même comme une marque infamante.
Ouais.
Et pour avoir rencontré comment Marjane Satrapi aussi, femme libérée, certainement sexy mais sûrement autoritaire, et comment dirais-je, vous voyez ce que je veux dire, une femme qui s'en laisse pas compter, et du coup elle c'est pareil quoi, elle dit c'est bon quoi.
Je pense que la première étape en tout cas, c'est que le port du foulard ne soit plus obligatoire. Ça c'est une étape qui est essentielle et qui à mon avis verra se découvrir. Enfin, permettra qu'une partie importante des Iraniennes se découvre. Il y a une autre partie qui conservera le voile, c'est certain.
C'est bon.
Un autre élément concernant les femmes, c'est il faut beaucoup d'Iraniennes conduisent, ce qui est interdit en Arabie Saoudite.
C'est pas l'Arabie Saoudite, voilà. Elles font du vélo.
Le vélo est interdit en Iran.
C'est vrai.
Depuis quelques mois, le vélo est interdit pour les femmes en Iran. Donc vous voyez, c'est quand même on part de loin.
Depuis quelques mois, mais n'était pas.
Alors non, ça l'était pas. Et puis un espèce de mollah a décrété que c'était indécent. Et effectivement, oui. Alors après, on les voit faire de la moto avec leurs copains, enfin, on les voit en mobylette. Enfin, bon, il y a des trucs que j'ai du mal à saisir, hein, quand même. Donc voilà.
On s'écoute un petit disque et après, j'aurai une autre question à vous poser pertinente. Toujours en compagnie d'Amnini qui nous parle de son expérience, de ses impressions.
Et arrêtez de m'appeler Madame Nini, j'ai l'impression d'avoir 80 balais.
C'est vous qui avez dit que vous vouliez bien Madame Nini, Madame Nini.
Vous avez commencé à faire une discrimination en disant Mademoiselle, c'est interdit. Ouais. C'est dans la
française. Eh ben Madame Nini, c'est interdit. Ça fait Mère Maquerelle.
Je trouve. J'ai essayé de vous le dire, mais ça semblait pas vous affoler.
Alors en termes social, l'Iran, c'est un pic qui est plutôt. Enfin, est-ce qu'on y a un choc en termes de pauvreté ou pas, ou est-ce que c'est un pays qui vit plutôt bien globalement?
Alors, je ne suis restée que 3 semaines, surtout et quasiment exclusivement dans des villes petites ou grandes.
Est-ce qu'il y a des punks à chiens à tout coin de rue?
Par contre, il y a de la mendicité. On a pu voir un peu de mendicité. Alors, je pense que la mendicité est interdite. Donc ça, c'est une hypothèse. C'était pas rare de voir des enfants venir nous vendre, venir essayer de nous vendre des chaussettes. Ou ce genre de choses, je pense aux chaussettes parce que c'était assez incongru et donc c'est une forme de mendicité. C'est pour ça que j'aimais l'hypothèse que la mendicité est interdite et que du coup ils utilisent de la vente je sais que l'Iran est un pays stable politiquement, alors après on voit de quelle stabilité il s'agit, hein, et économiquement depuis le milieu des années 80, on va dire
79, ça a duré 10 ans de guerre quand l'Irak a attaqué l'Iran. Donc ça a duré plutôt 89. Ouais.
Économiquement, c'est un pays qui va plutôt bien. C'est un pays, alors c'est tout son paradoxe, hein, et je pense que le gouvernement iranien, si la branche sur laquelle il est assis, puisqu'il éduque sa population, les femmes, le taux d'alphabétisation est le meilleur de la région, le niveau d'études des femmes est équivalent à celui des hommes.
C'est mieux que le Maroc, en fait.
C'est assez incroyable. Donc du coup, on parle d'une éducation athée, hein. Je parle pas des écoles coraniques, hein. Donc il y a énormément d'universités, donc il y a un accès à l'éducation qui est quand même assez fort. Et en éduquant, on développe aussi l'esprit critique, ce genre de choses. Du coup, je me suis un peu perdue là-dedans.
On parlait justement, il y a une pauvreté qui était visible, ou est-ce que il y a pas plus de pauvres que
c'est difficile.
Qu'à Paris, Rennes.
Je pense que ça nous a beaucoup moins frappé que je pense qu'à Paris. La pauvreté nous saute à la gorge, nous saute à la gorge. Ce qui n'a pas été le cas en Iran. Donc c'est un pays qui est connu pour aller plutôt pas mal malgré un embargo féroce qui se lève tout doucement depuis la signature des accords sur le nucléaire en 2015. Mais on ne sait pas ce que Donald Trump va faire, hein. C'était un accord qui permettait qu'en plusieurs étapes, l'embargo soit levé. C'est-à-dire l'Iran s'engageait à ceci et cela, et puis tous les ans, il y avait des contrôles. Et puis aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas utiliser nos cartes bleues en Iran. Il y a le pays...
Il
y a aucun transfert bancaire possible avec l'Iran.
Il y a des banques chez nous qui l'ont payé très cher aux États-Unis, ce genre de plaisanterie avec l'Iran.
Voilà. Et du coup, ça fait partie des éléments de l'embargo qui ne sont pas encore levés. Donc, un élément qui est compliqué parce qu'il a fallu qu'on aille avec une somme importante en euros pour changer ensuite en Iran. On n'avait pas d'autre solution.
Et vous promeniez avec un matelas de billets, du coup.
Voilà. Puis alors, 1 euro 400 000 riyals, je peux vous dire que...
Alors, une autre question.
C'était millionnaire.
Une autre question, toujours par rapport à ça. Moi, il y a un truc que je fais toujours par rapport à la culture, comment ça se passe là-bas. Quand j'arrive dans un hôtel, dans un pays étranger, pouf, j'allume la télé.
Oui.
C'est quoi la télé iranienne?
Alors, la télé iranienne, c'est rigolo. Un truc aussi sur les chambres d'hôtel, c'est rigolo. Dans toutes les chambres d'hôtel, on était dans des hôtels assez cheap, hein, mais on s'est posé la question de savoir si c'était pas une obligation. Il y avait un petit tapis de prière, le petit Coran, et puis sur le mur, la flèche qui indique la bonne direction de la Mecque, parce que quitte à prier, autant le faire du bon côté. La télévision, ils ont beaucoup de chaînes. Alors c'est vrai que c'est assez incongru de voir des émissions pour enfants avec des enfants voilés en tchador,
des
tchador de couleur. Des dessins animés, on n'en a pas vu. Après, on n'avait pas le nez sur la télé tout le temps, mais effectivement, on regardait une chaîne parce que on est tombé une fois dans un hôtel où on avait CNN et la BBC. La chaîne de la BBC. Autrement, dans tous les hôtels, on n'avait accès à aucune chaîne internationale. Là, je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'était pas légal puisque les paraboles sont totalement interdites en Iran. Et il y avait une chaîne qui s'appelait Presse TV. Alors avec une, on l'appelait la grosse dame noire parce que c'était une grosse dame tout en tchador.
Alors chauve-souris.
Quand on est rond, ça avantage pas le tchador.
Ça va pas à tout le monde.
Ça va pas à tout le monde. Et c'était leur CNN à eux. Et alors c'était incroyable parce qu'on avait l'impression que le monde était à feu et à sang. Donc ils montraient par exemple des manifestations pro-palestiniennes à Paris. On avait l'impression, parce qu'ils faisaient des plans serrés, dans ce qu'ils disaient, c'était une chaîne en anglais. Hein. Enfin, c'était une chaîne iranienne, mais à vocation internationale. Donc on avait l'impression que Paris était à feu et à sang. D'ailleurs, dans leurs propos, ils le disaient. Hein. Aux États-Unis, tout le peuple américain était dans la rue tout le temps pour manifester contre Donald Trump. En Israël, c'était pareil. Il y avait, en tout cas, bon, Israël et les États-Unis étaient au cœur de toutes les infos et ils avaient tous les 5 minutes des breaking news. Et on se disait, mais bon Dieu, mais c'est pas possible. Et ils balançaient tout le temps des breaking news. Et les breaking news, ça pouvait être une pseudo-tentative d'attentat là, des tirs là. Et on avait vraiment le sentiment que le monde était à feu et à sang.
Et quand on est rang, on est bien, finalement.
Ouais, et puis bah ça donnait comme... C'était hyper anxiogène, quoi. C'est-à-dire qu'on avait...
Bon, il y avait des caricatures de Donald Trump aussi, vous m'avez dit.
Bah, en fait, toutes les photos qui montaient de Donald Trump le ridiculisaient. C'était vraiment, il était toujours dans tous les reportages qui montraient de Donald Trump, il était toujours en fâcheuse posture. Il s'était entrecoupé d'images de manifestants aux États-Unis qui manifestaient contre Trump. Donc ça donnait un sentiment d'un président complètement aux abois, complètement discrédité par son peuple, pas du tout soutenu, et puis qu'il y avait pas grand-chose pour qu'il chute, quoi.
On s'écoute un petit disque et après il va falloir qu'on conclue parce que l'heure tourne. Eh oui, eh ben oui, l'heure tourne.
Hi.
Ouais, alors que leur tourne, il nous reste plus que quelques, même pas quelques minutes, une minute.
Trois minutes.
Je sais pas, l'Iran, vous conseillez,
Alors évidemment, après ce qui vient de se passer ce matin, donc pour rappel, hein, deux attentats quasi simultanés au mausolée Roménie et puis au Parlement, je serais bien en peine de conseiller ou pas. Alors moi j'ai le sentiment d'avoir fait un très très beau voyage, d'avoir rencontré des gens incroyablement sympas. Il y a une gentillesse, une spontanéité, puis en tant que touriste, parce que j'étais touriste, comme il y a quand même très peu de tourisme, eh bien, on est accueilli avec beaucoup de gentillesse, de sympathie, voire de plaisir, et avec un vrai désir de partage, de voilà, avec fierté aussi qu'on vienne voir l'Iran. Donc du coup, on était comme des coqs en pâte. Après voilà, après ce qui s'est passé, j'ai envie de dire que chacun fait son choix, mais en tout cas. C'est possible et c'est très facile de voyager en Iran. Le pays est très grand, hein, je ne sais pas combien il fait la France, il fait peut-être 4 fois la France, peut-être
c'est
comme,
possible,
un truc comme
grand,
ça. Ouais. Et puis, tout se fait en autobus dans des autobus de grande qualité pour très peu cher. Tout est simple et puis de toute façon, on n'a pas le temps d'être dans la mer puisqu'il y a toujours quelqu'un pour venir t'aider.
Allez, il va falloir qu'on conclue. IPAC, une rumeur court que votre prochain voyage ce serait la Corée du Nord. Pourquoi vous rigolez?
Eh ben non, parce que là pour le coup, je rêverais d'y aller. Alors, je pense que ce désir-là, il est un petit peu, il est un peu malsain. Mais non, parce que les voyages en Corée du Nord impliquent que de donner tout son argent au gouvernement nord-coréen. Ce qui n'est pas le cas quand on va en Iran. C'est-à-dire que on fait ce qu'on veut, on mange dans les restos qu'on veut, on dort où on veut, et l'argent, il va auprès de...
Des gens
en Corée du Nord.
Pourtant, un paradis communiste, ça devrait vous attirer, quand même, là. Allez, on vous paiera.
Communiste et communiste.
On vous paiera le billet aller, ça c'est sûr.
D'accord, ok.
On vous remercie.
Merci à vous, monsieur Le Grignot.
Même plus le temps, ou un.
Merci, Tom et Jerry.
C'est plus Tom et Jerry.
Et Kellen Jekyll.
Merci, madame Nini.
Vous avez pas une claque. Salut, à la semaine prochaine.
Merci, madame Nini.